Ce matin, je vais vous poser des petites questions. Déjà, est-ce que vous connaissez le sigle M2? Oui, ou M carré. Ça vous parle? Normalement, votre pasteur, régulièrement, on doit vous donner des nouvelles de ce sigle. Alors, je ne suis pas un promoteur du M2, je ne suis pas engagé au niveau des Assemblées de Dieu dans le mouvement M2, mais par rapport à ce que je voudrais vous apporter ce matin, je voudrais juste vous expliquer ce mouvement, puisque c'est un mouvement. M2 parce que mouvement multiplication, donc M carré, mouvement de multiplication. C'est un mouvement qui est issu dans les ADD il n'y a pas très longtemps, 3-4 ans en arrière. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est en train de gagner tout le monde évangélique. C'est-à-dire que c'est sorti ce sigle, ce mouvement M2 avec toute la charte qui va avec, c'est issu des ADD. Mais en fait, ça se retrouve maintenant dans tout le monde évangélique. Les autres mouvements aussi, les autres fédérations, les autres membres du CNEF ont embrassé cette vision. Alors, ceux qui l'ont pris à bras-le-corps, complètement, et il y a ceux qui se sont inspirés de ce mouvement. Alors, on n'est pas les dépositaires, bien loin de là, parce que cette vision, elle a plus de 2000 ans. Et ce matin, je voudrais vous parler de la mission universelle. C'est ce que le Seigneur a laissé comme mission à l'Église. C'est-à-dire à chacun d'entre vous, à chaque pierre qui la compose. Et c'est un texte qu'on connaît très bien, on va le prendre tous ensemble et on va le parcourir et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. J'ai voulu vous apporter ça maintenant parce que je me suis dit, c'est bien, là, on est en septembre, c'est la rentrée. Là, j'en prends, les activités vont reprendre petit à petit, la jeunesse, les clubs d'enseignement biblique, tout va reprendre. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'évangélisation. Ça me plaît, ça. C'est bon, ça. Une église qui évangélise, c'est une église qui vit. C'est une église qui grandit. Amen. Et on va en parler au travers de ce texte, ou de ces textes qu'on va prendre ensemble. Je voudrais qu'on prenne ensemble Matthieu 28. Et on va prendre les trois derniers versets. 18 à 20. Voilà. C'est bien parce que la technique... Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, alors j'entends encore des feuilles. Oh là là, c'est bon ce bruit. Ouais, parce que moi c'est ça, ou mon téléphone, le bruit de la feuille, ça reste à la maison parce que c'est lourd. Mais c'est encore important, et moi j'aime ce bruit de la feuille. Alors je vous laisse chercher, même si la technique est là. Et merci, désormais, je vais déjà dire merci à la sono, à la vidéo, parce qu'on les oublie souvent, c'est quelque chose qui se passe dans l'ombre. Et s'ils n'étaient pas là, vous m'entendriez comme ça. Et je pense que ceux qui sont au fond vont avoir du problème. Alors c'est important de les remercier, de penser à ce service qui est un service de l'ombre. Généralement, on se plaint d'eux quand on entend des bruits bizarres ou quand on n'entend rien. Mais quand c'est bien fait, ben, on les oublie. Alors, tout le monde doit y être. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces mots sont simples, mais aussi difficiles. Parce que ça va nous obliger à faire quelque chose. La foi, c'est Dieu a accompli un miracle il y a 2000 ans. C'est de croire ce qu'il a accompli. C'est de croire que Jésus, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Et on devient chrétien. Et pour beaucoup, ça s'arrête là. Et semaine après semaine, ils viennent chauffer une chaise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église, parce qu'un jour, le Saint-Esprit va vous saisir et vous allez bouger. Mais souvent, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui restent figées sur leur chaise, sur leur acquis, fondées sur leur acquis. Et ça peut sembler difficile, inaccessible. Parfois, on a peur parce qu'on se dit « c'est pas pour moi, c'est compliqué, il va falloir aller parler, il va falloir aller au contact des gens, il va falloir aller voir des personnes. C'est pas pour moi. Moi, je suis bien dans mon coin. Il ne faut pas m'embêter avec ça. » D'autres vont se dire « oula, mais ça, c'est une mission qui a été donnée aux disciples. Ça a été donné, c'est la mission du pasteur, de ceux qui sont appelés à ça. C'est pour les évangélistes. C'est eux qui doivent faire ce boulot-là. Nous, on suit de loin et on les laisse faire. » Il y en a peut-être qui, par contre, eux, ça brûle dans leur cœur. Et s'il y a une équipe d'évangélisation, c'est qu'il y a des gens pour qui ça brûle. Dans leur cœur, la passion des âmes les anime. Et je voudrais qu'en regardant un petit peu plus près, cette passion que peut-être quelques-uns ont, on puisse tous la voir, tous ensemble. Ce passage s'adresse à qui ? Quand on lit la parole, on se rend compte qu'il est dit qu'il parlait aux 11. On rappelle qu'à ce moment-là, ils ne sont plus qu'11. Donc, il parle aux 11. Et donc, il y en a certains qui vont se dire, donc s'il parle aux 11, c'est bien ce que je pensais, j'ai raison de penser que c'est que pour les pasteurs. Alors, c'est vrai qu'il parle aux 11, et l'Écriture nous dit que c'est à ce moment-là qu'il parlait aux 11. Que ce soit dans Matthieu, dans Marc, je suis allé chercher même dans Luc. Seulement, je ne peux pas dire que ça s'adresse que aux 11. Pourquoi ? Parce que, on va passer à Marc, qui nous parle de la même situation. Ce qu'il y a de bien avec la parole de Dieu, c'est qu'on a plusieurs personnes qui parlent de la même chose. Donc on peut regarder des angles différents de la même situation. Et là, on a Marc qui nous donne pratiquement la même chose. Puis il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui se croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite, on peut continuer. Ils vont faire, et ils en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Il y a une petite particularité, c'est que quand je lis Marc 16, si le commandement c'est le même, dans Matthieu, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans Marc, il est dit « Allez tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc précise quelque chose. Verset 17-18, principalement le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront qui ?» Ceux qui auront cru. Donc on est en train de dire qu'il n'y en a que 11 qui ont cru. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas dire que c'est que pour les 11. Si ça va accompagner les miracles qui sont là, et il aurait dit d'aller prêcher de la parole, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est bien dit aller prêcher et baptiser, pareil que dans Matthieu. Mais il est dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui seront partis pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, ceux qui sont dans cette cas-là, voilà les miracles qui vont les accompagner. Ceux qui ont cru, ça ne s'arrête pas aux 11. Ça s'adresse à tous les chrétiens. Ça s'adresse à chacun d'entre nous, à tous ceux qui ont cru cela. Donc, cette mission, et c'est pour ça que le titre c'est la mission universelle, c'est parce qu'elle est pour nous tous. À la fois, elle est pour chacun, et elle est pour chacun individuellement, et elle est pour tous. Alors, c'est quoi la mission ? Il y a deux axes. Donc, c'est faire des disciples. Excusez-moi de la palissade, hein, je ne sais que lire. Sur deux axes. Le premier axe, la prédication, ou l'enseignement, selon si on lit Matthieu ou Marc. Et le deuxième, le baptême. C'est les deux axes qui nous est donné pour faire des disciples. Chacun de nous, on a son rôle à jouer dans cette mission. Et le Seigneur nous exhorte tous, à être ancrés en lui, afin que chacun, nous puissions témoigner, parler, édifier, fortifier, relever notre prochain, prier pour lui. Le Seigneur veut que nous mettions en action la folie de la prédication. La prédication de la parole de Dieu est une folie. Dire que Jésus peut sauver encore aujourd'hui, c'est une folie. Aujourd'hui, le monde n'en a que faire de Jésus. Et en France, on est bien tranquille. Dans des pays lointains, dans des pays en difficulté, dans des pays pauvres, on voit que l'évangile se développe à grands pas. Même dans les pays où il y a des guerres, là où on se dit que ça serait complètement opposé à ce que Dieu puisse agir. Ils sont persécutés, ils sont maltraités. Quand ils disent « on aime Jésus, on va les tuer, on les met en prison, on les maltraite, eux et leur famille. » Et c'est là où il y a le plus grand souffle. C'est là où l'esprit relève le plus de personnes. Et nous, les petits Français, qui sommes bien dans nos maisons, bien assis dans nos canapés, devant notre grand écran plat, à regarder toutes les séries américaines qui viennent nous gaver et qui viennent nous polluer l'esprit, à manger toutes les demi-heures 5 à 6 minutes de publicité pour vous faire consommer. Ouais, c'est à peu près le rythme à laquelle vous avez vos pubs. Hein. Regardez bien. À peu près toutes les demi-heures. Sachez que on est chanceux. En Italie, on tourne entre un quart d'heure et 20 minutes. Donc, c'est bon, on est bien. Après, je ne suis pas allé dans d'autres pays. Moi, je connais bien l'Italie, comme vous avez pu entendre mon prénom. Donc, c'est aux alentours d'un quart d'heure, 20 minutes. En France, c'est toutes les demi-heures à peu près. Demi-heure, 35 minutes. Sauf dans les matchs de foot, parce qu'ils ne veulent pas nous couper. Mais sinon, ils le feraient. Donc, en fait, on nous gave d'autres choses. Et on se laisse faire. Dans ces pays en difficulté, ils ne se laissent pas faire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Leur seul point d'ancrage, leur seul salut, c'est Jésus. Et quand ils le découvrent, quand ils l'entendent, quand il y a des missionnaires qui vont chez eux et qui leur en parlent, il y a le Saint-Esprit qui souffle et qui vient les délivrer. Ça reste difficile. Ils restent dans des problématiques. Ça n'a rien changé autour d'eux, mais ça a changé en eux. Autour d'eux, la guerre, elle y est toujours. La persécution, elle y est toujours. Voire, elle s'intensifie. Mais en eux, ils sont ancrés. Ils s'agrippent à la croix. Ils s'agrippent à Jésus et ils ne lâchent pas. Autant la femme à la perte de sang, elle a juste touché le bord. Eux, ils ont saisi le bord du vêtement et ils ne le lâchent pas. Et si Jésus avance, ils sont traînés derrière parce qu'ils ne veulent pas lâcher le bord du vêtement. La bénédiction, ils l'ont, ils la gardent. Jésus, ils l'ont, ils le gardent. Mais nous, dans notre confort, on est tranquille. Donc la prédication est une folie. Et elle est peut-être plus une folie pour nous ici, où tout est, excusez-moi, facile. C'est beaucoup plus facile. Mais Dieu veut qu'on témoigne. Il veut qu'on ose témoigner et qu'on puisse prêcher dans notre témoignage l'action rédemptrice, salvatrice dans les vies qu'il veut transformer, parce que ce n'est pas nous qui transformons. Le message qu'on doit transmettre, il est simple. Souvent, on se fait une montagne de ce qu'il y a à dire quand on doit parler à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Pourtant, ce n'est pas une montagne. La première chose, soyez simple. Il faut être simple. Racontez ce que Dieu a fait dans votre vie. Racontons ce que Dieu a fait. Si aujourd'hui, je crois en Dieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Raconte-le. Je vais vous raconter une partie de la mienne. Je connais le Seigneur depuis, en fait, 1989. La première fois que je l'ai rencontré, c'était le 22 octobre 1989 à l'église de Marignane. Alors comment j'y suis arrivé? J'ai 16 ans à ce moment-là, donc il y en a qui vont faire les calculs. Amusez-vous. Je vous laisse faire. Donc, j'ai 16 ans, Et à ce moment-là, je suis un gars déprimé, complètement déprimé. Pourtant, à la maison, c'est plutôt bien. J'ai des parents qui sont toujours mariés, contrairement à tout ce qui se passe autour de moi, qui s'aiment. Bon, après, si on rentre un peu, on creuse un peu avec une mère dépressive et un père alcoolique. Mais ils m'ont toujours aimé, à leur manière. Ma mère, je t'aime, moi non plus. C'est je t'aime aujourd'hui, je te déteste demain, en fonction de l'humeur et des médicaments. Et mon père, ça dépend du taux d'alcoolémie. Quand il rentre le soir, si c'est un peu trop chargé, c'est dommage. Et comme je suis le fils aîné, c'était pour moi. Et donc, c'était très fréquent que j'étais plus bleu que rose. Donc, quand arrive l'âge de 15 ans, enfin 14-15 ans, j'ai un peu grandi. Pas beaucoup, je ne suis pas encore très grand. Mais je me sens un peu plus aguerri. Puis, un jour, je refuse que mon père me frappe une énième fois. Et je lui dis, si tu me touches, je te tue. Et là, je ne parle plus avec mon père. Bien sûr, ma mère me fait la tête. Et tout ça va durer 2 ans. 2 ans à la maison, c'est juste bonjour, au revoir. Débarrasse la table, mets la table, va jeter les poubelles. Et c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. Et moi, je suis comme ça. À l'école, c'est guère mieux. À l'école, je suis la petite tête. Mais je suis le plus petit de la classe. Donc, du coup, je deviens une tête de turc. Et si je ne fais pas les devoirs des copains, j'ai droit à la même chose qu'à la maison, c'est-à-dire me faire tabasser. Tout ça n'est pas très joyeux. Et donc, je me coupe de tout. Comme je vous ai dit en préambule, mes parents m'aimaient. Leur manière de m'aimer était spéciale, elle était à eux, mais ils m'aimaient. Quand je connais leur histoire, donc ils ne pouvaient pas aimer plus que ce qu'ils avaient déjà reçu. Et comme ils n'avaient pas reçu grand-chose, si ce n'est eux aussi des coups et des douleurs, ils ne pouvaient pas redonner grand-chose. Donc, je suis à 16 ans. Je viens de redoubler ma première seconde. Je viens de perdre la possibilité de jouer en équipe de France ou d'Italie, puisque j'avais le choix, puisque j'étais sélectionné pour les équipes nationales au football. Tout ça, c'est pas très réjouissant. Donc, marre de la vie, marre de tout, puis pensée de suicide, puis passage à l'acte. Par 3 fois, je tente d'en finir. Miraculeusement, je m'en sors. Les 3 fois. Je passe sous un bus, parce que je me suis jeté dessus. Je passe par-dessus une voiture, parce que je me suis jeté dessus. Je tente de me couver les veines. Il faut être mauvais, hein. Je me suis raté. Il faut vraiment être mauvais. Ou alors, il faut qu'il y en ait un qui ne veuille pas que vous mouriez. Et comme ça, je me retrouve l'été 1989, sans Dieu, sans personne, enfin voilà, ancré avec des idées très noires. Mon dessin favori à ce moment-là, c'est une tombe. Et à partir de maintenant, je vais mettre une date. Et cette date, c'est le 31 décembre 1989. Et on est le week-end du 15 août, c'est le jeudi 15 août. Je suis avec mes parents en vacances à la Grande Motte. Je vais sur la plage et j'en peux plus. À ce moment-là, j'étais aussi ancré dans plein de choses. Pas la gloire de Dieu. Et entre autres, des jeux de rôle très, très poussés, où la sorcellerie était très ancrée, et où je pratiquais ces choses. Ça, la voyance, tous ces trucs-là, c'était bon à prendre. Et je me retrouve sur cette plage et je commence à dire adieu, j'en pouvais plus. Chercher l'amour partout, mes parents, pour moi, ils ne m'aimaient pas à ce moment-là. Je ne comprenais pas qu'ils pouvaient m'aimer. Personne ne m'aimait, l'école, c'était calvaire. La vie était un calvaire. Et je me dis, c'est pas possible que la vie, ce soit ça. La vie, j'en veux plus. Et puis, je me retrouve sur cette plage de la Grande Motte. Le feu d'artifice a été donné. Donc, il est tard dans la nuit. Je me retrouve face au port. Et puis là, je pousse un cri. Pas vous dire. Et je m'adresse à un Dieu que, à ce moment-là, je ne connais pas. Je vous passe les choses de 16 ans. Que tu sois ce que tu es. Que tu sois un homme, une femme, un animal, une chose. Mais si tu es Dieu et que tu existes, tu fais qu'avant la fin de l'année, je trouve l'amour. Et pour moi, l'amour, je pouvais le trouver que dans le travers d'une femme. Donc tu trouves celle qui va devenir mon épouse. J'ai donc 16 ans. Donc à 16 ans, je pousse ce cri à Dieu, je dis, tu fais que je trouve, avant la fin de l'année, celle qui va être, parce qu'il y avait la date du 31 décembre 1989. Et si tu ne le fais pas, je finis pas l'année. 90, je ne le connaîtrai pas. Je mettrai fin à ma vie. Et donc, je fais cette prière et puis je m'en vais. J'arrive au lycée et je me retrouve face à la fille que j'ai draguée toute l'année d'avant. Et je me suis dit, j'ai mis de rien, j'ai peut-être prié, mais bon, je tente encore. Il n'y a rien. Par contre, elle vient, elle me fait, écoute, faudrait que je te présente quelqu'un. Retrouve-moi au CDI. C'est un lieu très fréquentable. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est là où c'est la bibliothèque. Retrouve-moi au CDI et puis je vais te présenter quelqu'un. Ok. Bon, bah, donc je crois que c'est juste après la récré. Je vais vers le CDI. Et puis en allant vers le CDI, je vois une fille. Une petite. Oh là là, oh le canon. Et au-dessus d'elle, j'avais l'impression qu'il y avait écrit « Celle-là, c'est la tienne. Elle est pour toi. » C'est elle. Dans mon cœur, il n'y avait aucun doute. Cette fille-là, ça allait être l'amour de ma vie. Ce n'était pas encore gagné. Donc, elle me présente justement cette fille. Et donc, je lui dis « Ok, ben, je vais tenter le prendre drague. Alors, vas-y, Axe Marine. » Ça n'existe plus. Hein. Mais Axe Marine a deux bombes presque par jour. Il fallait sentir. Hein. Puis un ado, il faut couvrir. Hein. Parce que ça transpire. Hein. Deux bombes d'Axe Marine, vas-y, plein de drague. Et puis je commence à draguer la fille. Et puis, par contre, je la retrouve dans le même cours que moi, le cours d'italien. Puis bon, d'abord je suis au fond, puis j'avance d'un cran, parce que c'est une bonne élève, donc elle est plutôt devant. Donc j'avance au fur et à mesure d'écran, jusqu'à ce qu'elle puisse voir que je suis à côté, que je peux lui parler. Et puis je lui fais des petits dessins. Ça va très vite, ça, hein, c'est en espace d'un mois. On a 16 ans, on ne va pas prendre 10 ans pour faire pour draguer. Et donc je continue à faire mes dessins. Et puis bon, s'il y a des étudiants, surtout ne faites pas, surtout les collégiens et les lycéens. Donc je dessinais sur les tables mes petites tombes avec un épitaphe, « Si j'ai un homme qui ne pouvait être aimé », date 31-12-1989. GS. Mon épitaphe est fait, tout est fait, et elle voit ça. Ça encourage énormément pour la drague. Enfin, je sais pas, j'ai un plan de drague très spécial. Hein. C'est très spécial. Mais pourtant, on commence à discuter ensemble, tout ça. Et puis, arrive le mois d'octobre. Comme je vous ai dit, c'est assez rapide. Et le mois d'octobre, moi, je lui déclare ma femme. Je dis pas de bêtises, ça doit être le 8 ou le 9. Non, 13-7. 13-7, ça fait le 6. Donc le 6, je lui déclare ma flamme. Donc je lui envoie une petite lettre. Hein. Pour les jeunes ados, vous devez savoir ce que c'est, on ne va pas y aller en frontal. Donc on envoie une petite lettre et puis j'ai le malheur de lui écrire en bas, surtout prends ton temps. Ne jamais dire ça à une fille. Parce que prendre son temps, elles savent ce que c'est. Et surtout quand nous, on est pressés. Par contre, elle a un truc, elle me dit quelque chose quand même. Donc, on est la semaine d'après. Et elle me dit, écoute, je ressens des choses pour toi. Mais il y a un problème. Il n'y a aucun problème, tout se résout, on peut trouver des solutions à tout. Enfin, je ne peux envisager, c'est sa phrase, elle a 15 ans à ce moment-là, je ne peux envisager de concevoir la vie avec un garçon s'il ne partage pas ma foi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est cette histoire de foi? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Moi aussi, je suis chrétien, il n'y a pas de problème. J'ai fait ma communion, j'ai été baptisé, t'inquiète. Donc, je lui dis, écoute, ouais, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Je n'ai toujours pas en tête cette fameuse prière que j'ai faite au mois d'août. Pour moi, c'était fait comme ça, à la va-vite. Mais c'est là où le Seigneur, il met beaucoup d'humour. Et donc, elle me donne cette phrase. C'est quelque chose de puissant. Elle me dit, écoute, je devais me faire opérer. Elle me dit, quand tu te fais opérer, tu viens à l'église. Je dis, ok. Je dis, mais bon, tu as réfléchi quand même à ma question. Le mec, il n'a pas entendu la réponse. Hein. Non, mais il dit, ben, j'ai des sentiments pour toi et ouais, j'ai bien envie de commencer, mais je ne pourrai pas si tu ne partages pas ma foi. Il faut que tu viennes à l'église. Ton église, c'est quand ? Parce que si, il faut que j'arrive à le caler, moi, entre les matchs et tout, il faut que j'arrive à caler. Hein. Et on se donne rendez-vous donc le 22 octobre à l'église de Marignal. Je viens avec toute ma famille. Entre-temps, elle m'a dit, oui, je veux bien qu'on essaye quelque chose, mais on reste soft. Là, les ados, hein. Donc on est aux alentours du 11-12. À ce moment-là, pas de bisous. Je ne lui tiens pas la main. La bisou, c'est encore sur la joue. Ah, c'est pas vieux, hein, c'est 89. Hein. J'ai l'impression que c'était mes parents. Non, on n'était pas ensemble. Il n'y avait pas, pour elle, il n'y avait pas la confirmation qu'elle attendait. Alors, elle avait ses sentiments, donc oui, elle m'a dit oui, mais de loin. Ok. Et j'arrive le 22 octobre à l'église de Marignane. C'est M. Julien qui prêche. Que vous connaissez. Et je ne peux pas vous dire sur quoi il a prêché. Ce que je sais, c'est quand j'ai franchi les portes, j'ai commencé à pleurer. Et je n'ai pas pu m'arrêter jusqu'à ce que j'entre morte. Je suis rentré dans cette église et mon épitaphe, c'est « Si j'ai un homme qui ne pouvait être aimé ». Et ce jour-là, j'ai rencontré un Dieu qui m'aimait. Il n'a pas fallu 36 ans, il a fallu une fois. Ce jour-là, j'ai eu l'impression, alors je n'ai jamais vécu ça dans la vie, heureusement pour moi, mais de recevoir une tsunami. Tellement c'était fort, tellement c'était puissant, j'ai été complètement submergé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il s'est manifesté dans toute sa nature, dans toute sa splendeur. La prédication, d'ailleurs je lui ai dit, pourquoi tu as raconté ma vie au pasteur ? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je peux vous dire qu'il en a raconté des choses. Hein. Et on dit, c'était simple, mais dans la Bible, j'y suis pas. Pourtant, c'était ma vie qui racontait. Et j'étais complètement submergé par l'amour de Dieu, au travers de la prédication. Les gens qui étaient dans cette église, déjà, ils avaient tous le sourire. Moi, le sourire à la maison, c'était plutôt la soupe à la grimace. Mais là, ils avaient le sourire, ils étaient heureux d'être là. Même quand j'allais au foot, on n'était pas heureux comme ça. Dans mon équipe, on pensait qu'à la compète. Donc c'était grave. Quand j'étais à l'école, on pensait à la réussite. C'était grave. Quand j'étais dans toutes les activités, c'était grave. Puis là, il y a des gens avec des sourires. Mais alors, des bananes. Ils sont heureux d'être là. Ils sont heureux d'être ensemble. Ils vivent ça bien. Et quand j'arrive, ils m'accueillent. Ils m'embrassent. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont fous, ces gens. Ils ne me connaissent pas. Et j'avais l'impression que j'étais né avec eux. C'était vraiment la sensation. Comme s'ils m'avaient connu toute ma vie. C'était la première fois que j'entrais dans une église. Je n'ai plus jamais quitté l'église. C'était plus possible. Tant d'amour à cet endroit-là. L'humour de Dieu, c'est que j'ai prié, et c'est là que ça m'est revenu, j'ai prié pour qu'il me donne l'amour. Je ne m'étais pas trompé, c'était ce que j'avais besoin. Je n'avais juste pas compris ce dont j'avais réellement besoin. Moi, j'ai prié pour recevoir ma petite amie, celle qui allait être ma femme. Ça me paraissait logique, c'était dans cet amour-là que j'allais trouver mon équilibre. Mais lui, il m'a donné son amour à lui. Et cerise sur le gâteau, je suis marié avec la petite. On s'est mariés. Parce que du moment que j'ai donné mon cœur à Dieu, moi je m'en rappelle, c'est très personnel, mais c'est le 22 octobre que je l'ai embrassé pour la première fois. Parce que ça a été validé. Ça a été validé par le Seigneur. Et du coup, elle a pu elle aussi dire, ok, on y va, on continue, on poursuit. Aujourd'hui, on est parents, on a 3 enfants, dont un qui s'est marié cet été. Donc, la vie a continué et le Seigneur nous a jamais lâchés. Les moments étaient difficiles, mais l'amour de Dieu a surpassé toutes choses. Et elle m'a témoigné simplement en me disant, je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Qu'est-ce que c'est que cette foi ? C'est quoi ? Ben c'est simple. Pour moi, la foi, c'est simple. D'abord, c'est témoigner de ce que fait Jésus dans nos vies. Témoigner de la folie puissante de la croix sur nos vies, pour tous et chacun. Baptiser, c'est dire confirmer l'œuvre de Christ dans la vie. Quand je lis ce qui a été... Quand je lis ce que j'ai cherché, quand je lis ce commandement simple que Dieu a donné, c'est ce que j'ai compris. Pour moi, il n'y a qu'un mot pour résumer la Bible. Aimer. Alors peut-être vous allez me dire, c'est très personnel, c'est ce que tu cherchais. Mais je crois que tous autant qu'on aime, on cherche l'amour. On cherche cet amour puissant. Et Jésus traduit, résume parfaitement la parole de Dieu en deux commandements. Aimer son Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est dans Matthieu 22, 37, 40, sinon la vidéo ne peut pas suivre. Jésus qui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cet enseignement est tellement puissant qu'il est repris dans Marc, dans Luc, parce qu'il fait écho au Lévitique, il fait écho au Deutéronome, il est repris par Jacques, par Paul. C'est tellement important, c'est tellement central dans la parole de Dieu que tout au long de l'Écriture, on le retrouve. Ça passe par ça. Alors, comment on peut témoigner ? Ben, il faut témoigner simplement de notre vie, de ce que Dieu a fait. Arriver à dire où elle a été la croix dans notre vie, où ça a été important, où est-ce qu'on a découvert l'amour de Dieu dans nos vies. Il faut qu'on mette les personnes face à la croix. Je ne sais plus qui c'est tout à l'heure, quand je suis rentré dans l'église, m'a dit, c'est tellement important de parler de la croix. C'est tellement important. Pour moi, c'est ce qui est central. L'amour, la croix. La croix, c'est l'amour. C'est le sacrifice ultime. Et il faut qu'on arrive à placer... On arrive à placer la croix dans nos conversations. Et quand on l'a placée, amener les gens à lever les yeux vers la croix et leur dire, toi aussi, Dieu te place devant cette croix. L'acceptation personnelle de la mort et de la résurrection de Christ, manifestée physiquement par le baptême d'eau, nous devons devenir tous des enfants de Dieu. Galates 3, 26, 27 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc je vais aller un peu plus vite. Le rôle de l'Église, c'est de témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, c'est de témoigner de la folie puissante de la croix, et c'est de baptiser. Le baptême, c'est le témoignage ultime qu'on peut faire, qu'on peut prendre, c'est l'engagement ultime. Avant commence autre chose. C'est la dernière étape pour montrer notre engagement à tous. Après, on passe dans la deuxième étape, la croissance pour devenir disciple. C'est le processus normal. On nous a témoigné, on a entendu, on a cru, on s'est retrouvé face à la croix, on a accepté la croix et on accepte de prendre le baptême. Tout à l'heure, on a dit que c'est à tous ceux qui ont cru et qui se sont fait baptiser. Il faut les deux. C'est important. Cependant, et je veux le dire aussi parce que ça voudrait dire que est-ce qu'on peut aller prêcher la parole de Dieu à ceux qui sont mourants ? Est-ce qu'on peut aller parler à quelqu'un qui a eu un accident, il est en train de mourir ? Est-ce qu'on peut ? Parce qu'on sait qu'il ne va pas avoir le temps d'être baptisé. Est-ce qu'il va pouvoir être, lui, recevoir Christ ? Eh bien, la parole de Dieu, elle a même pensé à ça, elle nous a donné l'exemple. Elle nous a donné l'exemple avec le brigand. Dans Luc 23, excusez-moi. Luc 23, 40 à 43, nous avons les brigands. Il y a le deuxième brigand qui dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On est bien d'accord que le brigand à côté de Jésus n'a pas été baptisé. Vous êtes tous d'accord avec moi. Pourtant, Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. La norme, c'est celui qui aura cru et qui sera baptisé. Mais il peut y avoir des exceptions. C'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu. Parce qu'on voit que dans ce qui se passe à ce moment-là, il y a tout. Il y a la confession. Jésus est Dieu. Vous la voyez, vous aussi ? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Dieu subit la même condamnation que lui. On parle bien de Jésus. Donc, il vient en train de dire que Jésus est Dieu. D'accord avec moi ? Donc, il confesse que Jésus est Dieu. Il reconnaît son péché. Au verset 41, il dit « Pour nous, c'est justice, car nous méritons, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît qu'il mérite ce qui est en train de lui arriver. Mais il se tourne quand même vers Dieu et se tourne quand même vers Jésus. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il proclame, avant que ça arrive, la mort et la résurrection du Christ. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » On est bien d'accord que Jésus, pour l'instant, il est sur une croix. Il est en train d'agoniser au même titre que lui. Il est en train de mourir. Mais lui, il a compris que c'est ce Jésus qui a été annoncé par tous les prophètes et auquel il a été dit qu'il souffrirait pour chacun d'entre nous, qu'il allait mourir d'une manière atroce. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et il voit Jésus à côté de lui et il se dit, c'est lui, c'est le Messie que nous ont annoncé les prophètes. Il est là, il le reconnaît et il sait qu'il reviendra. Et il le proclame, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce qu'ont pris le baptême, c'est souvent la question. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle ? C'est la question que les pasteurs nous posent. Et aux deux oui, on nous noie. On noie le vieux moi. La vieille nature, elle est noyée. Elle meurt, elle est ensevelie comme Christ a été enseveli. Et quand on sort de l'eau, c'est comme si on ressuscitait avec lui. Amen. Parce que c'est ça la symbolique de ce baptême par immersion. C'est pour ça que ça ne peut pas être trois petites gouttes qui nous sont projetées sur le front. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette immersion complète, qu'on passe de l'autre côté. Il faut passer de l'autre bord. Amen. Alors, il y en a encore qui sont en train de dire, ça c'est facile tout ce que tu dis, parce que toi tu es appelé à ça. C'est ton rôle et c'est pas le mien. Parce que toi, si tu es là, c'est que tu as reçu un appel particulier. Et que Dieu a dû forcément te donner des choses particulières pour parler aux gens, pour avoir le courage de parler aux gens. Déjà, heureusement que Dieu m'a donné le courage, parce que sinon je ne serais pas là. Quand j'ai reçu mon appel, il y a des années et des années, je disais tout, mais pas l'estrade. Ça faisait peur ici. Ici, ça faisait peur. Et puis vous faisiez peur. Les gens, ça fait peur. Parler à une foule, ça fait peur. Par contre, c'est vrai que le Seigneur m'a toujours donné la capacité d'aller voir les personnes individuellement. Et ça a commencé sur le marché, ça a commencé très très tôt, très vite. Dès que je suis sorti, dès le 22, dès le 23, j'ai commencé à parler de Dieu autour de moi. Dès le 23 octobre 1989. Dès que je suis sorti de l'église, j'ai commencé à parler autour de moi. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que ça brûlait tellement que je ne pouvais pas garder pour moi. Et dans la parole de Dieu, on en a tellement des personnages qui sont comme ça. Qui a eu le changement, je pense à cette femme samaritaine, elle est allée dans le village, elle a dit « Mais il a tout raconté de ma vie !» Ben j'ai fait pareil. Ni plus ni moins. J'ai fait pareil. Attends, il y a eu un pasteur, il a raconté toute ma vie sur une estrade, sans me connaître. Et j'ai senti Dieu me toucher. Qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu ? Il est complètement starbé. Je peux vous dire qu'autour de moi, c'est bien. Et les premiers qui l'ont dit, c'est mes parents. Ma mère, elle m'a dit, mais c'est quoi ces fous ? C'est quoi ce fou ? Mon fils est devenu fou, il est rentré dans une secte. Mais si tu te dis ça, tu n'as pas tort non plus. Si tu te dis que j'ai reçu l'équipement, sache une chose, c'est que tu n'as pas tort. Seulement, là encore, il y a une fausse idée qui circule. C'est que ceux qui sont ici qui le reçoivent. Cet équipement, il est que pour ceux qui prêchent. Il est que pour ceux les quelques rares qui ont le courage d'aller dans la rue. C'est pour eux. C'est leur cadeau à eux, c'est le cadeau de Dieu pour eux. Et pourtant, c'est pas ce que je lis. Tout à l'heure, on a lu Luc 23. On va lire Luc 24. En fait, Luc 24 nous raconte à peu près la même histoire. On est toujours dans la même période. 24, 44, 49. On est au même moment. C'est toujours le même moment qui est raconté encore par Luc. Luc, il aime bien les chercher. Il a creusé. Il nous le dit au début de sa lettre. Il a voulu vraiment pour confirmer ce que les autres étaient en train d'écrire. Il a fait des recherches. C'est un scientifique. Donc, il n'a rien laissé au hasard. Et là, il nous apporte quelque chose de particulier. Puis, il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, culture, petit moment de culture. Quand je lis ça, Moïse, si on revient juste avant, s'il te plaît, de 43 à 44, nous a dit que Moïse, les prophètes, dans les psaumes, tout ce qui est écrit, alors je ne vais pas tout vous prendre, hein, vous faire grâce, sinon on va arriver à l'étude pour le baptême de cet après-midi, mais quand on lit ça, on se dit, waouh, dans le Deutéronome, il nous est dit que Dieu va susciter du milieu du peuple un homme, un sauveur, quelqu'un qui aura ses paroles à la bouche. Vous trouvez ça dans Deutéronome 18, versets 15 à 20. Et que si on ne lui rend, on ne l'écoute pas, il faudra lui rendre des comptes. Et on se rend compte que Dieu y sera, que Jésus sera sur le trône et qu'on va devoir lui rendre des comptes. Et là, il faudra aller lire dans l'Apocalypse. Ésaïe 53 décrit avec précision, et là on est dans les prophètes, décrit avec précision ce qui va se passer le jour de la mort du Christ. Quand je lis ça, j'ai les larmes qui me viennent, parce que je m'imagine, et j'ai pas eu besoin d'attendre le fil de Mel Gibson pour m'imaginer la passion du Christ. Quand je lis Ésaïe, je m'imagine très clairement. Je vois très clairement ce qui a dû se passer. Et c'est très précis. On peut lire avec précision les souffrances, la mort, la résurrection du Christ dans Ésaïe 53. Les psaumes aussi relatent, on a plusieurs psaumes qui relatent ces choses. Je ne les ai pas notées. Il y a le psaume 22, le psaume 20, il y en a plusieurs, où on parle justement de la mort ou de la résurrection du Christ. Il faut le chercher, c'est très poétique, donc on n'est pas dans, c'est pas du littéral pur. Mais la parole se confirme. Et Jésus est venu appliquer. Il est venu, non pas abolir comme il le dit lui-même, mais il est venu révéler et appliquer la parole de Dieu. Il est venu pour nous montrer que c'était possible. Ce qui importe ce matin, c'est les versets 46 à 48. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça ne vous rappelle pas Matthieu et Marc? Allez prêcher en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il leur dit cette phrase, vous êtes les témoins. Vous êtes les témoins de ce qui m'est arrivé. Au travers de ce que vous avez vécu, au travers de ce que chacun en a vécu, on est les témoins de ce que Jésus accomplit encore aujourd'hui, en 2018. En 2018, Jésus agit encore. Et nous sommes les témoins, et nous devons partager cela autour de nous. Et là aussi, on voit, vous prêcherez. Il est parlé de la prédication. Vous prêcherez, la parole sera, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. C'est la prédication de la bonne nouvelle. La repentance est là. Le pardon du péché, le salut et le baptême. À toutes les nations, partout et en tout lieu. Juste un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'Océanie? Alors à peu près, l'Océanie, c'est l'Australie, c'est très loin. Allez, commence à se rapprocher, l'Asie. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de personnes d'Asie? Il y en a du côté des États-Unis et tout ça? L'Afrique? Ah, quand même. Alors, quand je dis les États-Unis, parce que j'en ai un que je sais pertinemment qui est, je mets aussi toutes les îles, hein, qui sont dans les Antilles, là. Voilà, n'est-ce pas, Jean-Marc? Hein, vas-y, lève la main, mon petit. Voilà, là aussi, il y a ma sœur. Donc déjà, on est loin, là. Bon alors, donc l'Afrique, j'ai pas vu beaucoup de mains. Il n'y a personne qui est né en Afrique. Ah, quand même. Il n'y a pas de pieds noirs chez vous? Parce que je ne sais pas, hein, je veux dire, d'accord que c'était français, mais moi, mon grand-père, il est né à Alger. Hein. Moi, le grand-père, le père de ma mère, il est né à Alger. Donc moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. Ah oui, non, il faut le dire ce qui est. Moi, ma belle-mère, elle est de Tunisie. Hein. Et alors, c'est pas un problème, ça. Bon, allez, on va se rapprocher. Est-ce qu'il y en a qui sont d'Europe? Ah, les Européens, quand même. Dans les Européens, est-ce qu'il y a des... Alors, il y a pas des... est-ce qu'il y a des non-Français, là, généralement? Les non-Français, levez la main. Bah, pour de bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens que leur nom finit par un « i » ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un nom qui finit par un « a » ? Un « o » ? Ouais, faut aller, en gros, les Italiens, là. Levez la qui ont des origines italiennes, il y en a. Il y en a qui sont d'origine espagnole. Il y a bien des « ez » quelque part. Les Lopez, Hernandez, les Chautez, tout ce que vous voulez. Il n'y en a pas avec ES pour les Portugais? Il peut y en avoir. Bon, après, des Britanniques, tout ça, des gens du... Ah oui, ah oui, c'est vrai, aussi. Mais après, il n'y en a pas qui sont du Nord? Ah, il y a des gens du Nord. Du Nord de l'Europe ou du Nord de la France? Bon, après, qui c'est qui est né au-dessus d'Avignon? Voilà, à Istres, bon, je crois que c'est la première église que je visite, vous êtes vraiment des gens des locaux. Vous êtes vraiment des locaux. Quand on fait ça à Marignane, il en reste plus beaucoup là, à ce moment-là. Il y a des Istréens, des vrais Istréens. Alors les Istréens, vous imaginez que vous êtes Jérusalem. Non mais, vous êtes les gens de Jérusalem. Puis ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, ben, c'est ceux qui déjà sont en Judée. D'accord? Puis après, ceux qui sont en dehors, le 84, 30, tout ça, ceux-là, alors ceux-là, eux, c'est la Samarie, c'est plus loin. Hein, c'est la Samarie. Et puis tous les autres, ben, vous êtes les extrémités de la terre. Mais regardez le chemin. Regardez le chemin. Et c'est pareil. Aujourd'hui, nous, là, ben, donc il n'y a personne qui est de Jérusalem. On a bien vu ça tout à l'heure. Et pourtant, tous, on croit au Seigneur. Donc le chemin a été fait. Nos ancêtres l'ont fait. À nous de faire pareil maintenant dans notre région. À nous de faire pareil là où nous sommes. De prêcher et de témoigner d'abord, alors je paraphrase, mais d'abord à Istres. Et après aux alentours. Alors que je ne me trompe pas, on va partir de l'autre côté. On va avoir Saint-Chamas, Miramas. Puis après, il y a les petits patelins qui sont de l'autre côté, là, Grance, tous ces trucs-là. Après, de l'autre côté, il y a Martigues. Bon, vous allez vous rencontrer avec vos frères de Martigues. Hein. Mais allez-y. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vois que vous devez être à peu près... Allez, il y a peut-être 200 personnes, si je compte large. Istres, quelqu'un connaît la population? 46, Martigues. Pareil, les deux, à peu près là, pareil. Ouais, mais c'est comme nous, avec Vitrolles et Marignane, c'est pareil. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 90 000 personnes pour 400 chrétiens. Donc on peut travailler tous ensemble. Et je pense qu'il y a de la place pour aller faire de l'évangélisation. Avant qu'on remplisse cette église complètement, celle de Martigues complètement, que nous verrons deux, trois annexes, on a le temps. On a le temps. Mais il faut le faire. Et on doit se mettre en route. Et c'est bon de le faire, de se rappeler ces choses à la rentrée. Et donc, pour valider Marc, qui disait « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. » Pour que Marc nous disait que ceux qui auront cru vont faire des miracles. Mais ils ne vont pas le faire des miracles avec leur force. Ils vont faire les miracles avec le Saint-Esprit. Et l'équipement, je vais même dire peut-être le seul équipement qu'on a besoin, qu'on ait besoin, c'est d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est le seul équipement qu'on a besoin. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux évangéliser. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux avoir un impact sur les lieux spirituels. La fois où je me suis retrouvé baptisé du Saint-Esprit, je ne m'en suis même pas rendu compte. Mon épouse était malade à côté de moi. Je ne parlais pas encore en langue. Et c'est comme ça que ça s'est manifesté. Il devait être 2-3 heures du matin, là où il fait très bon de me réveiller. Et elle était tellement mal qu'elle m'a réveillé. Elle me dit, il faudrait que tu pries pour moi. Tu ne peux pas attendre demain matin. Non, elle ne pouvait pas attendre. Donc j'ai prié pour elle. Et en fait, je m'endormais. Je n'avais aucune force. Mais elle souffrait, elle avait des crampes terribles. Elle me dit, tu peux prier pour moi ? Ok, donc je me réveille et je commence à prier pour elle. Et puis, à un moment, elle me secoue, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'avais plus de force, je ne pouvais plus rien faire. Le Saint-Esprit avait pris le relais. C'est comme ça que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Il fallait que je prie pour ma femme, je n'avais pas le choix. Il fallait qu'elle soit guérie, elle a été guérie. Mais ce n'est pas moi qui ai prié, j'avais plus de force. Le Saint-Esprit a pris le relais. Et quand la parole de Dieu, elle dit que quand vous priez en esprit, vous dites des choses que vous ne comprenez pas, mais le Seigneur, lui, les entend, c'est ce qui s'est passé. Et dans l'évangélisation, c'est pareil. Souvent, on se pose des questions de comment on va faire. Faites confiance au Saint-Esprit. Les stratégies, c'est lui qui les a. Nous, on monte nos projets. C'est bien de monter des projets. Mais le Saint-Esprit, lui, sait ce qu'il a à faire. Il sait comment il va toucher telle ou telle personne, telle ou telle population. Parce que c'est lui qui nous guide. Et c'est lui qui peut vous guider. Soyez revêtis du Saint-Esprit. Demandez-le, harcelez le Seigneur. Les disciples sont restés, ils ont attendu dans la chambre haute de recevoir la puissance qui venait d'en haut. Réclamons une nouvelle Pentecôte pour notre Église. Réclamons-la, c'est l'équipement dont nous avons besoin pour aller évangéliser, pour aller accomplir la mission que le Seigneur nous a laissée. Il ne veut pas nous envoyer seuls, il veut nous envoyer avec son feu. Amen. Il veut qu'on puisse être visité, rempli de la troisième personne de la Trinité. Comme le Père, comme le Fils glorifié, il a les mêmes attributs. Il a l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Il sait toutes choses. Il peut nous révéler, il veut nous révéler les choses cachées, il veut nous les révéler. Il a la puissance, il veut nous communiquer cette puissance pour que quand on aille dans la rue, on puisse prier pour les malades et qu'ils soient guéris, que les démons soient chassés. Pour que si on essaye de nous mettre quelques pièges, on soit averti divinement et qu'on les évite. C'est ça les serpents. Si on veut essayer de nous empoisonner en nous donnant quelque chose qui n'est pas à sa gloire, le Saint-Esprit va nous l'enlever. Amen. Et on va pouvoir passer par-dessus les choses. Ce matin, Dieu veut qu'on réalise ce que c'est que le mouvement M2. Et j'en reviens à ma multiplication. Le mouvement M2, le mouvement de multiplication, c'est ça. Mais le mouvement de multiplication ne peut pas commencer si nous ne sommes pas remplis. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons aller que si nous avons été envoyés. Nous pouvons prier que si nous avons le Saint-Esprit avec nous. Sinon, ça ne sera que des vaines paroles. Et il faut que cela. Et ce matin, ce que j'avais sur le cœur, c'est qu'on puisse prendre un temps pour le demander. Ce n'est pas fini après. Hein, parce qu'après, je voudrais m'adresser à d'autres personnes. Si vous m'accorderez les 5 minutes qu'il faut. Je voudrais simplement savoir si dans l'Église, il y a des personnes qui ont le désir de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir aller, être envoyé, non pas par des hommes, mais envoyé par Dieu. Parce que le mouvement de multiplication, parce que la multiplication, pour que vous ayez les chaises qui sont encore vides, qu'elles soient pleines et qu'il va falloir que vous rajoutiez des rangs ici, ici, que vous puissiez pousser les murs, il faut être équipé du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut le communiquer. Il n'a pas dit « je ne vous le donnerai pas » ou « je le donnerai à ceux qui le méritent ». Ce n'est pas du tout ça. Il veut le communiquer. Et je voudrais qu'on puisse prendre un temps, tous ensemble, que le peuple de Dieu puisse prendre ce temps pour recevoir l'équipement qui est nécessaire pour qu'on puisse aller tous travailler dans le champ. La parole nous dit que le champ est blanc. Les champs sont blancs. Qui vais-je envoyer ? Qui ira travailler dans la moisson ? Qui ira ramasser ces âmes qui sont là et qui attendent qu'une chose, qu'on ose leur dire « partage ma foi ». Ma foi, c'est ça. Qui va oser dire Jésus. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri, Jésus est intervenu dans ma vie. Jésus, c'est tout pour moi. Jésus m'a aimé d'une force que je ne pouvais pas comprendre. Moi, j'ai dit à mes amis, et j'ai dit à beaucoup d'amis, Jésus m'a fait connaître ce qu'était l'amour. Pas l'amour charnel, pas l'amour je t'aime moi non plus le lendemain, même pas l'amour que mes parents pouvaient me communiquer, mais l'amour qui vient du Père, celui qui ne change pas, celui qui, quand on est dans le creux, quand on n'est pas bon, quand on est méchant même avec lui, il pardonne, il passe. Celui qui a toujours les bras grands ouverts, quand on est dans le creux de la vague. Celui qui nous recueille quand on est en train de se noyer, celui qui nous tire de l'eau, qui nous arrache de la boue quand on est en train de sombrer, c'est cet amour-là. Cet amour qu'on ne peut trouver qu'en Christ. Parce que lui, il a tout accompli pour nous. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime par-dessus tout. Alléluia. Je voudrais vraiment qu'on puisse fermer les yeux. On va fermer les yeux, simplement. Et je ne vais pas être un appel, lève la main, pas lève la main. C'est une histoire de chacun, c'est dans le cœur de chacun. Mais que chacun puisse s'examiner et se dire, oui, c'est vrai, je fais peut-être partie de ces gens qui ont dit, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je fais peut-être partie de ces gens qui disent, c'est eux qui reçoivent l'équipement. Mais je voudrais que ce matin, on puisse réaliser chacun qu'on a besoin de cet équipement. Seigneur, tu vois, tes enfants, ce sont tous tes enfants, ils sont là parce qu'ils sont venus pour écouter ta parole, pour écouter ton conseil, Seigneur. Et Seigneur, ce que tu désires, Seigneur, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, Seigneur, c'est les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Chacun va travailler différemment, Seigneur. Tu as peut-être suscité des gens de prière qui vont user leurs pantalons parce qu'ils seront à genoux tout le temps et parce qu'ils vont harceler le ciel afin d'obtenir les bénédictions, afin d'obtenir les stratégies. Tu vas, Seigneur, équiper aussi, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi pour rentrer dans cet appel, pour aller proclamer ta parole, pour aller témoigner en extérieur. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu veux faire. Seigneur, je te demande une nouvelle Pentecôte pour l'Église d'Istre, Seigneur, pour l'Église de France en général, mais pour l'Église d'Istre en particulier, Seigneur. Je demande vraiment que tu puisses souffler, que ton esprit puisse souffler maintenant, Seigneur, sur ton Église, Seigneur, et que maintenant ton esprit puisse venir visiter les cœurs, les âmes, Seigneur, les corps, Seigneur, les vivifier, les remplir. Merci parce que tu l'as dit, Seigneur, tu veux le communiquer à chacun d'entre nous. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que pendant ce temps que nous prenons, on ne va pas s'étaler pendant 10 ans, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison, mais on veut vraiment le réaliser. On veut réaliser qu'on a besoin de cet équipement pour aller de l'avant, afin d'être envoyé en Judée, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'on puisse être envoyé à Istres, Martigues et les alentours, Seigneur, dans les Bouches-du-Rhône, en PACA, dans la France, dans tout le monde, pour la gloire de ton nom, afin que ton nom puisse toucher encore, Seigneur, et sauver, amener à salut, Seigneur, beaucoup, beaucoup de tes enfants qui attendent, qui ont besoin de t'entendre. Merci, Seigneur, de te servir de nous. Merci parce que c'est une grâce que nous avons. Nous, si petites créatures, Seigneur, mais tu nous aimes tellement, tu nous as tellement désirés. Merci de nous donner tout l'équipement nécessaire, Seigneur, et de le donner à chacun en particulier. Merci pour ceux qui l'attendent depuis tant d'années, qui attendent depuis tant d'années de le recevoir. Seigneur, tu exauces les prières maintenant. Tu vois aussi ceux qui sont jeunes, Seigneur, qui débutent dans la foi, qui ont besoin de tenir ferme, Seigneur, dans leur position, que ce soit à l'école, au lycée, ou peut-être aussi au travail, Seigneur. C'est des fois difficile de tenir ferme ces positions. Par ton esprit, Seigneur, nous savons que nous serons forts, parce que c'est toi qui fortifies. Merci de ce que tu fais. Amen. Je voudrais juste prendre 3 minutes. C'est une habitude que j'ai personnellement. Dans l'église aussi, on l'a, Marignane, mais moi, j'ai une habitude personnelle. Le culte, c'est vrai, on se réunit tous entre chrétiens, mais souvent, on amène aussi avec nous peut-être nos enfants, notre conjoint, un ami. On l'amène pour la première fois. D'autant plus qu'en ce moment, vous n'avez pas la réunion de l'après-midi, où c'est plutôt là où on apporte la parole. On prêche l'évangile, on prêche le salut. Et ce matin, je voudrais m'adresser peut-être à ceux qui viennent pour là ou les premières fois, ou qui ne sont pas encore engagés avec Christ. Parce qu'ils sont en train de se dire, c'est bien beau, là, il nous a raconté une brave histoire, mais ça c'est pour les chrétiens, et puis moi je ne le suis pas, donc ça ne me concerne pas. Ouais, ça ne te concerne pas, mais ça te concerne. Parce que je voudrais que tu réalises quelque chose. Dans la parole, il nous est parlé d'un homme pour qui tout allait bien. Et mieux que lui, je pense qu'on ne peut pas aller. Il prospérait tellement qu'il s'est rendu compte qu'il avait des greniers trop petits pour entreposer ses récoltes. Et lui, il s'est dit, bonne maison, c'est le moment, on était une entreprise locale, on va devenir une entreprise régionale, voire multinationale. On va agrandir les greniers, on va pousser les murs, on va détruire ce qui existe, on va construire des plus grands et on va mettre encore plus de récoltes. Et on va pouvoir encore grandir. Et ma société, elle va être prospère et je vais avoir les poches pleines de billets. Enfin, à l'époque, ce n'est pas des billets, c'est des pièces, mais c'est ce qui se passe. Et ce gars-là est béni. Parce qu'en effet, il va remplir ses greniers. Mais comme quoi, le soleil se lève sur les justes et aussi sur les méchants. Il s'avère que cet homme va se mettre le soir et regarder, il va se dire, « Waouh, ça y est, là, j'ai grandi ma société, mon entreprise, elle est prospère, ça marche bien, je suis tranquille, les greniers sont pleins, je vais pouvoir faire la fête, je vais pouvoir faire la fête, je vais pouvoir me réjouir, je vais pouvoir réjouir mon cœur, mon âme, je vais me régaler parce que j'ai des biens. » Et il s'avère que cet homme, dans la nuit, Dieu lui réclame son âme et lui dit « Tu vas mourir. » Cet homme est tellement riche. Mais en fait, il a son cœur, il est complètement sec. Ah, il a des biens, il a la fortune. Et Dieu n'est pas contre ceux qui ont de l'argent. Bien au contraire, il veut bénir. Il veut bénir chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question de riche ou de pauvre. C'est une question de richesse ou de pauvreté de cœur. Dans son cœur, lui, il n'a pas bâti, il n'a pas construit des choses pour Dieu, pour le règne, pour prendre soin. Il s'est juste préoccupé de lui-même. Et dans la nuit, cet homme l'a mort. Bien occupé de sa vie. Il avait réussi, prospéré. Mais Dieu va lui poser la question, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Tu es peut-être dans ce cas-là, toi aussi. Toi, Dieu, jusqu'à présent, tu l'as mis de côté, tu t'en es pas posé la question. Tu viens peut-être depuis des années dans une église. Mais c'est bien, tu t'assois, les chants sont sympas, les gens sont sympas, ils font la bise en rentrant. Ils me la font aussi en sortant, ce qui est sympa. Mais j'ai des copains, j'ai des copines, j'ai des amis. Mais non, la foi, ce n'est pas pour moi. Je voudrais quand même te poser une question. Est-ce que tu sais quand ton heure va venir? Est-ce que tu es assez fou pour croire que tu es éternel? Est-ce que tu crois qu'un jour ou l'autre, ça ne va pas t'arriver? Alors tu te dis, j'ai peut-être le temps. Il y en a d'autres qui se disent, j'ai peut-être moins le temps. Quand les cheveux commencent à devenir grisonnants, on a moins le temps. Mais toi, peut-être je m'adresse à un jeune, il est peut-être en train de se dire, mais j'ai le temps, je peux voir venir. Il n'est pas trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux prendre ta décision. Et l'exemple, on l'a lu tout à l'heure, je te le rappelle. Le brigand, il est quand même allé jusqu'à la croix. Il a été inextrémiste. Il s'en est sorti. De l'autre côté, je te rappelle quand même, il y en avait un autre. Hein. Lui, par contre, il est mort et mort. Il est mort deux fois. Il est mort physiquement et il est mort spirituellement. La parole de Dieu nous dit que Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais si je m'arrêtais là, ça serait dramatique. Parce que tout le monde a péché. Tous on a péché. Il n'y en a pas un qui est nommé juste devant l'Éternel. Tu n'as peut-être jamais tué. Tu n'as peut-être jamais volé. Tu n'as peut-être même jamais convoité les biens d'autrui. Pour ne pas parler uniquement de la femme d'autrui. Tu n'as peut-être même jamais menti. Mais est-ce que tu t'es intéressé à ton Dieu? Je vous rappelle tout à l'heure, j'avais dit que la loi des prophètes se résumait en deux commandements. Quand bien même on serait juste vis-à-vis du deuxième, qu'on aime son prochain, qu'on n'a jamais rien fait de mal à aucune créature terrestre, ok, tu es en accord avec le deuxième. Mais le premier commandement, est-ce que tu l'as mis en application? Est-ce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu ne peux pas répondre oui à cette question, tu as péché contre Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que si tu crois en ce que Jésus a accompli et tu rentrerais dans le cadre de ceux qui ont cru, tu peux encore changer la face de ta vie. Pas les circonstances extérieures, quoique, mais ta vie intérieure. Le brigand, je te le rappelle, a confessé qui était Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Il reconnaît son péché. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, la mort. Mais il proclame la souveraineté de Dieu et sa résurrection en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans son règne. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pour tout le monde, mais c'est pour toi en particulier. Parce que tant que ça restera pour tout le monde, tu ne le vivras pas. Mets à la place de ce quiconque ton nom. Mets à la place de ce quiconque, personnalise-le, personnifie-le. Le quiconque, ça doit être toi. C'est toi qui dois croire en lui afin de ne pas périr. Et ce matin, tu as encore cette possibilité. Tu as cette possibilité de le rencontrer, de faire l'expérience de la vie avec Jésus, d'une vie rempli de quelqu'un qui va te tenir la main dans tous les instants. Quand bien même tu serais dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu serais dans le creux de la vague, il sera avec toi. Il te conduira, il te tiendra la main et si tu n'arrives pas à marcher, il te portera pour t'amener vers des verts pâturages parce que c'est le désir de son cœur. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Jésus a tellement aimé qu'il a tout quitté, la gloire, pour venir s'identifier à chacun, pour s'identifier à toi, pour vivre comme toi, simplement, comme un simple homme, pour être tenté comme toi, en toute chose. Il a été tenté en toute chose, comme toi. Il a vécu la faim, la soif. Il a dû vivre aussi, il a dû voir lui aussi les jolies filles. Il a dû être, il avait toute chose. Il a été tenté en toute chose, mais il a tenu bon. Et il est resté attaché au Père. Et il veut que tu sois toi aussi attaché à lui. Il veut que tu puisses donner ta vie, que tu puisses venir à cette croix, te mettre à ses pieds, au pied de la croix, lever les yeux vers lui et dire « Oui, je crois que toi aussi, tu es mort et ressuscité pour moi. » Comme ce brigand. Que tu puisses dire « Souviens-toi de moi quand ton règne va venir. » Ce matin, je m'adresse à toi qui ne l'as pas encore connu. Et là encore, je vais vous demander de fermer les yeux parce que je voudrais que ce soit vraiment un temps entre ma voix, qui est juste un porte-parole, et le Seigneur. Toi peut-être qui te connais, qui est là, qui vient depuis des années, ou alors qui vient pour la première fois, ce n'est pas important le nombre des années. Ce qui est important, c'est ton état de cœur. Dans quel état il est? Vers qui il se tourne? Le Seigneur, ce matin, te tend la main et il te dit « Mon enfant, viens à moi. » Il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Il te connaît personnellement. Il t'appelle par ton nom. Il te dit « Mon enfant, viens à moi. Je t'aime. Regarde mes mains. Regarde mes pieds. Regarde mon côté. C'est pour toi que j'ai subi cela. Afin que la condamnation qui était sur toi n'y soit plus. Elle ne te soit plus imputée. Afin que la mort éternelle qui t'était destinée, que cette mort éternelle qui t'était destinée ne soit plus, et que tu puisses rentrer avec moi et vivre éternellement dans ma joie, avec tous ceux qui, avant toi, ont cru. Je te bénis, Père. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas, je voudrais prier pour toi ce matin. Et simplement, en signe de bonne foi, en signe de ce que tu t'engages, tu lèves ta main. Et le Seigneur, lui, la voit. Oui, le Seigneur voit votre main. Oui, aussi. Monsieur aussi, madame aussi. Le Seigneur vous voit. Merci, Seigneur, pour ces mains qui se lèvent. Seigneur, mon Dieu, tu vois, Seigneur, ces personnes qui, ce matin, se tournent vers toi parce qu'elles ont réalisé qu'elles sont, que c'est en toi qu'elles peuvent avoir leur salut, leur secours. Le secours est en toi. Et Seigneur, tu viens ce matin pour prendre leurs mains et les tirer, les extirper de là où ils sont, Seigneur. Tu veux leur donner une vie nouvelle en toi parce que tu les aimes. Merci, Seigneur, de ce que tu fais maintenant. Merci parce que tu les convaincs, Seigneur, que tu as fait la chose en eux et que maintenant tu vas les amener, Seigneur, à devenir disciples, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu es en train de faire, la transformation dans leur vie. Merci, Jésus. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Avec toute l'Église, nous te rendons grâce de ce que, ce matin encore, de nouvelles âmes sont rentrées vers la bergerie, s'approchent et veulent rentrer dans la bergerie. Je te rends grâce, Seigneur. Amen. Amen. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous, je vous encourage à leur dire, j'ai fait ce pas-là. Si vous n'avez pas une Bible, demandez-la. Et l'église, il y a une librairie et ils trouveront un moyen de vous fournir la Bible. Et puis, il y en a des pas chers. Parce qu'il faut que vous puissiez garder cette parole et que vous puissiez entretenir cela. Et puis, attachez-vous à l'église. Attachez-vous à l'église. C'est au milieu des frères. Ce matin, quand je suis arrivé, j'avais un chant au fond de moi. C'est la reprise du psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et là, tu es seul pour l'instant, mais là, tu peux rentrer dans une famille, la famille de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il nous fait enfants, qu'il veut nous donner l'esprit d'adoption. Et c'est aussi, il veut nous raccrocher au corps de Christ. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont, ce matin, fait ce pas avec Jésus, de vous rapprocher des responsables de l'Église pour qu'ils puissent prier avec vous, vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Et raccrochez-vous à une Église. Si vous êtes de passage, ben, demandez, on vous dira aussi qu'il y en a une pas loin de chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour cette église. Je ne veux pas partir sans bénir cette église, Seigneur. Je te remercie pour l'accueil qui m'a été fait, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, pour la ferveur qu'il y a dans cette église, pour ta parole. Seigneur, la ferveur qu'il y a pour ton nom. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est vrai qu'à Istres, nous voulons, comme dans la région, nous voulons élever, Seigneur, ton nom au-dessus de toutes choses. Nous voulons lever l'étendard de Christ, Seigneur. Nous voulons que la bannière soit haut dans le ciel de Istres, Seigneur, et des environs, afin que, Seigneur, le plus de monde puisse voir que tu existes, que tu agis, que tu transformes, que tu guéris, que tu délivres. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais dans cette église. Merci pour ce que tu vas encore faire. Et je te bénis, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui est là. Amen.